affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. En ce mois de juillet, nous commémorons les 80 ans d'une rafle sans équivalent en Europe. C'était à Paris. En 1942, en quelques heures à peine, elle conduisit à l'arrestation 12 884 juifs, des hommes, des femmes et des enfants. Presque tous disparaîtront dans les camps d'extermination. Cette opération fut intégralement menée par la police française à la suite d'un accord entre le régime de Vichy et les autorités allemandes. Elle laisse des blessures profondes. En 1995, le président Chirac a parlé d'une faute collective et d'une dette imprescriptible. Pourquoi cet événement occupe-t-il une place à part dans la mémoire nationale? Pour en parler, nous sommes en compagnie du grand rabbin de France, Chaim Korsia, membre de l'Institut et du Conseil scientifique de France Mémoire. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé les 16 et 17 juillet 1942, parce que nous avons en tête cette expression consacrée, la rafle du Veldiv, mais concrètement, que s'est-il passé ce jour-là?
Quelque chose d'impensable. Et c'est ce qu'a expliqué le président Jacques Chirac, et on y reviendra. Ce jour-là, la police française, vraiment il faut le dire, c'est ce qui a été un des grands points problématiques, c'est la police française seule, qui est venue arrêter tous les juifs qui s'étaient fait enregistrer. Pour les concentrer, les ramener dans des points de rassemblement, puis les amener au Veldiv, au vélodrome d'hiver, qui était un immense, donc une piste cycliste, qui était sur l'emplacement actuel de la rue Nélaton. Oui, donc à l'angle du boulevard de Grenelle et des quais. Et à cet endroit, on a parqué ces gens. Sur deux jours d'arrestation, au petit matin, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades, tout le monde. Il devait y en avoir beaucoup plus. Mais il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'est que la population a aidé autant que faire se peut. Et donc, il y en a eu 13 000 à peu près, avec plus de 4 000 enfants. Donc, imaginez, sans aucun moyen d'accueillir toutes ces personnes, rien à manger, rien à boire. Et je veux rappeler l'action incroyable d'un capitaine des pompiers, qui s'appelait le capitaine Pierret, qui vient s'enquérir de ce qui se passe. C'est sa zone géographique de compétence. Un lieutenant quelconque lui dit, c'est comme ça, on arrête les juifs. Il lui dit, mettez-vous à distance réglementaire et faites-moi un salut réglementaire. Comment vous parlez à un capitaine? Et donc le bonhomme s'exécute. Et le capitaine des pompiers, Pierret, va amener de l'eau, mais c'est rien, mais de l'eau, à ces personnes. Il sera fait par la suite juste des nations, et d'ailleurs son fils deviendra notre ambassadeur, ambassadeur de France, en Israël, bien plus tard. Et ces enfants qui sont là sont envoyés dans deux camps, à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, où ils vont être seuls, seuls. Certains vont mourir sur place. Je suis allé me recueillir il y a quelque temps sur les tombes, avec le souvenir français. Et puis, ils vont être mis dans les convois pour la déportation, de manière très rapide avec... il faut imaginer, quand je vous parle d'enfants, je vous parle 2 ans, 3 ans, 11 ans, 17 ans, mais 2 ans, 6 mois, des petits. Et donc, imaginez les conditions de voyage de ces petits, et puis les parents. Ce sont des convois qui sont quasiment tous exterminés en arrivant au Jude. C'est-à-dire que des convois de 1000. On a quasiment 980 personnes envoyées au four crématoire, c'est-à-dire aux chambres à gaz et au four crématoire immédiatement. Et puis, vous allez me dire, est-ce que c'est la seule rafle ? Non. Il y a eu le 14 mai 1941.
Un an avant.
Une autre trahison qui s'appelait la rafle du billet vert. Tous les juifs en situation d'étranger, parce que là, la rafle du Valdiv dont on vient de parler, c'était les juifs français, des juifs, point, enregistrés, en tant que juifs. Mais le 14 mai 1941, la préfecture convoque les gens, leur envoie un billet vert pour examen de situation. Ils arrivent donc dans des lieux, le gymnase Japy par exemple, ils arrivent dans des lieux connus de la ville, chacun selon son adresse. Et là, immédiatement, ils sont arrêtés et amenés dans des camps et déportés. Donc, c'était la première déportation. Et puis ensuite, évidemment, après la rafle du Valdiv, il y a eu encore d'autres déportations, y compris ensuite en zone dite libre. Et puis quand les Allemands vont rompre cette distinction entre zone libre et zone occupée, ça va être déchaînement avec toutes les rafles organisées partout en France. Mais celle-ci a quelque chose de terrible, celle de la rafle du Valdiv, parce que, au fond, les gens se disaient quoi ? On veut envoyer les Juifs dans des camps de travail. Donc qui risquait d'y aller ? Les hommes. Les hommes sont cachés ou n'ont pas été chez eux. Mais en fait, c'était tout le monde qui était arrêté. Je vous l'ai dit, femmes, enfants, vieillards, handicapés, malades. Et ce qui était terrible, c'est que c'était fait par la police française. Voilà toute la force de l'impossibilité de parler de cela après la guerre. Mais, disons les choses clairement, c'est cette rafle-là qui a déclenché ce qu'on a appelé par la suite le réveil des consciences chrétiennes, avec l'appel incroyable, prophétique, disons-le, de Mgr Saliège à Toulouse. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Qui va exiger de lire ce message dans toutes les églises de son diocèse. Mgr Théas à Montauban et d'autres encore. Le pasteur Bognert qui va engager le travail incroyable du pasteur Trocmé au Chambon-sur-Lignon. Travail de sauvetage des Juifs. Autrement dit, en août 42, on a ce réveil des consciences chrétiennes et les rapports des préfets à Vichy le disent.
Que l'opinion est choquée.
Nos concitoyens ne supportent
pas. Au-delà de ce que les autorités pensaient.
Et même au-delà de l'antisémitisme de Bonaloi qui courait à bas bruit ou à bruit fort dans la société. Au-delà de tout ce qu'on pouvait accepter, c'était des images inacceptables pour ce que nous étions, pour ce qu'était la France. Et les préfets font remonter ces informations en disant « Attention, la population n'adhère pas à cela ». C'est ce qui va, de mon point de vue, mobiliser, au-delà de l'Église dont j'ai parlé et du protestantisme, qui va mobiliser les gens de peu, les gens importants, les fonctionnaires, les policiers parfois, des gendarmes parfois, des fermiers, et qui vont protéger, cacher les enfants, les familles, en Corrèze, en Creuse, dans le Cantal, partout, vers Périgueux, partout en France, à Paris même. On a des familles qui vont cacher des Juifs, des voisins, et qui vont les sauver. C'est ce qui explique d'ailleurs que 3/4 de la communauté juive présente en France sera sauvé malgré cette volonté absolue, disons les choses froidement, de faire du chiffre. Et ce qui va rendre hystérique, y compris quand Bousquet décide d'aller au-delà, avec Laval, ils décident tous deux d'aller au-delà de la demande des nazis, et de livrer même les enfants de moins de 16 ans, parce qu'il leur faut remplir des chiffres. Donc cette rafle va durer 2 jours. Ensuite, c'est des conditions terrifiantes dans le Valdiv, conditions horriblissimes dans le transfert vers les camps, et une fin atroce en y arrivant pour l'immense majorité. Il faut savoir que très peu de survivants de ces premiers convois ont passé l'ensemble de la guerre, mais on a tous les témoignages. Je reviens à la question que vous posiez au début, qui est une vraie question forte. Pourquoi on n'a pas parlé ? Il faut juste penser au film...
Après la guerre.
Oui, Le chagrin et la pitié. Donc là, on est après la guerre. Donc pendant la guerre, je pense que ça réveille quelque chose dans la conscience nationale. Après la guerre...
C'est le silence ?
Absolu. Et je vais vous dire à quel point. C'est silence absolu parce que lorsqu'un film sort, Le chagrin et la pitié de Max Ophüls, il y a un moment, une vague image où on aperçoit le képi d'un policier français. Et à cause de cette seule image, on va littéralement boycotter le film. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il n'est pas visible par les classes, qu'il n'est pas audible par la société. Maintenant, c'est une triste réalité. Et donc on va vivre dans ce mensonge que le général de Gaulle forge à la libération. Nous sommes tous des résistants. Et peut-être qu'il fallait ce mensonge pour qu'on puisse se reconstruire. Mais il fallait les paroles de vérité du président Jacques Chirac en 1995, qui a dit ce jour-là, la France commettait l'irréparable. Et ce jour-là, la France a trahi sa parole. Je vais sauver ces personnes en les accueillant. Et ensuite, on les a livrées à l'ennemi. Et on ne peut reconstruire un lien de confiance que si on dit la vérité. Toutes les commissions qui, dans tous les pays du monde, se sont fondées pour dépasser des traumatismes lourds, je pense par exemple à l'Afrique du Sud, avec l'apartheid, ont appelé ces commissions « Justice et vérité ». Il faut une parole de vérité. C'était la parole de Jacques Chirac essentielle. Mais ce qui me stupéfait, c'est qu'il y a un livre étonnant, vraiment, sur la rafle du Veldiv, qui est écrit par deux personnes. Une s'appelle Lévy, la deuxième, j'ai malheureusement oublié son nom, Claude Lévy et Paul Tillard, voilà.
Dans les années 60.
Exactement. Ils écrivent ce livre. Pour la première fois, ils parlent de la rafle du Veldiv avec un livre. Et écoutez le bandeau pour signaler le livre. La Saint-Barthélemy des Juifs de Paris. Et dans une de ses conférences, Serge Karsfeld, à qui jamais nous ne serons assez reconnaissants d'avoir, avec des recherches dans les archives, toutes les archives, retrouver les noms et, quand c'était possible, les visages, les adresses des enfants. Serge Karsfeld a dit « Il y a eu des manifestations de haine, de racisme, d'antisémitisme dans l'histoire. Mais il y a eu deux manifestations de racisme qui étaient des crimes d'État. La Saint-Barthélemy, en France, je veux dire, la Saint-Barthélemy, c'était l'État. Et la rafle du Veldiv. Et ce bandeau de ce livre le disait à sa façon. Il se trouve que j'ai eu l'immense honneur, à quelques mètres d'ici, sur le pont Neuf, de mettre une plaque à la mémoire des morts de la Saint-Barthélemy. Et malgré mon âge canonique, je n'ai pas l'âge d'avoir assisté à la Saint-Barthélemy. Ce qui veut dire que cette plaque a été mise 444 ans après ce 25 août. 444 ans. Parce que dans notre conscience nationale, on ne peut pas accepter ce qu'on a fait. Et donc, c'est comme dans Astérix, lorsque on dit, bah, allez-y, je ne sais pas où c'est. Nos défaites morales et nos défaites tout court, on ne sait pas où c'est. Et cette plaque, mise sur le pont Neuf avec les autorités protestantes de France, avec l'État, président de la République de l'époque, c'était François Hollande, c'était une façon de réparer, non pas cet oubli, cet impossible. Et je crois que le discours du président Chirac, c'était aussi une façon de réparer cet impossible.
Est-ce qu'il y a une question de temps ? C'est-à-dire que certaines paroles ne sont pas audibles par la génération qui a vécu les événements, mais la génération suivante peut l'entendre, peut l'envisager, peut peut-être regarder la réalité en face.
C'est très juste votre remarque. Probablement parce que le président Chirac était trop jeune, il est né en 32, il avait 10 ans, 42. Il n'avait pas été un acteur de ce qui avait été le cas de ses prédécesseurs, enfin François Mitterrand évidemment, Giscard d'Estaing aussi à sa façon, même s'il est plus jeune. Bref, les prédécesseurs ne pouvaient pas dire cela parce qu'il faut une forme de recul. Mais oui, vous avez raison. Peut-être qu'il y a un temps pour la vérité. Et il succède, ce temps de vérité, à un temps où on essaie de faire ce qu'on peut, ce qu'on peut comme on peut. Et autant il a fallu ce mensonge, appelons-le comme ça, d'une France toute résistante, autant moi, c'est inacceptable. Vous voyez, j'organise tous les ans un voyage à Auschwitz avec les élèves de classe, je prends 174 passagers, des élèves d'école militaire, des élèves d'Henri IV à l'époque, des élèves un peu partout, d'école privée, Saint-Jean-Hust de Versailles, d'école privée juive, plus des militaires, des personnes qui travaillent chez Air France, chez Aéroport de Paris. Bref, l'aviation, l'armée, les écoles. Et tous les ans, nous allons à Auschwitz. Et c'est vrai qu'au début, j'étais stupéfait quand même. Parce que le pavillon français à Auschwitz sont des pavillons par pays. Raconter l'histoire telle qu'on la voit en France. Sauf que ce pavillon avait été fait en 1974 par la commission régionale, le CRDP de Besançon, qui avait été l'opérateur du pavillon français. Or, ce que ce pavillon racontait, c'était « Nous sommes tous des résistants ». Malheureusement, ce n'était pas la vérité. Mais en 1974, c'était la doxa. Puisque 1974, c'est avant les études étrangères. Encore une fois, votre question est tellement juste. Lorsqu'on est plongé dans notre propre histoire, on ne la regarde pas objectivement. Il a fallu que des yeux étrangers, en particulier ceux de Paxton et Marus, nous disent « Voilà ce qu'était la politique anti-juive, antisémite de Vichy. Et des personnes qui ensuite ont continué leur carrière. 78, c'est le moment où commencent à poindre des questions sur les uns, sur les autres. C'est le moment où on réagit après la tentative, n'oublions pas, quelques années avant, de Pompidou, de gracier Touvier. Vous voyez ? Avec cette phrase de Pompidou qui était tellement juste, il faut oublier, dépasser une période où les Français ne s'aimaient pas. Mais on peut pas effacer ce qui a été. Et donc, Paxton et Marus travaillent sur les documents, établissent les faits, non pas dans une mythologie, mais dans une réalité. Et lorsque le CRDP fait l'exposition du pavillon français, personne ne la touche. J'y vais en 2001. J'y vais en 2002.
Donc après le discours du président Chirac.
95, le discours de Chirac. Personne ne touche à ce pavillon. 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Il est réélu en 2002. Personne ne touche. Je pars en novembre 2002. Je pars en Auschwitz. Et là, j'ai avec moi le conseiller du président de la République pour la culture dans le voyage à Auschwitz. J'ai avec moi le conseiller du Premier ministre, qui était Jean-Pierre Raffarin à l'époque. J'ai avec moi le conseiller du ministère des Affaires intérieures et celui des Affaires étrangères. Et je leur fais rencontrer le choc de Auschwitz. Et nous visitons ensemble le pavillon français et je leur dis « c'est pas possible ». Nous rentrons, nous faisons une note au Premier ministre et au président, et le Premier ministre, quelques mois après, annonce que le président de la République a décidé avec lui de refaire l'exposition du pavillon français. Et là, c'est plus le CRDP de Besançon, c'est l'État qui s'en occupe. Et on refait une miséographie avec cinq destins qui incarnent toutes les déportations à partir de la France. Charlotte Delbault, Pierre Masse, grand avocat, sénateur, vice-président du Sénat, qui sera déporté après une lettre bouleversante qu'il adresse à Pétain. Dois-je retirer sa Légion d'honneur à mon fils mort au chemin des dames? Dois-je retirer sa Légion d'honneur à mon neveu? Dois-je retirer sa médaille de Sainte-Hélène à mon grand-père, qui a servi l'empereur jusqu'au bout? Une lettre bouleversante, Pétain ne fait rien, il est déporté, il meurt en déportation. Donc, Lamperger, Pierre Masse, Charlotte Delbault, Grégory Alpern, un jeune enfant, victime de la rafle de la maison d'Izieux. Et puis, une famille arrivée de Pologne qui va être déportée et qui va mourir en déportation, sauf un enfant. Et cette réfection du pavillon français que le président Chirac va venir inaugurer à Auschwitz le 27 janvier 2005. C'est la suite de son discours. Au fond, c'est ça l'enjeu dans la mémoire. Et je sais que vous œuvrez à la mémoire ici. C'est comment la mémoire devient action. On ne peut pas avoir qu'une mémoire historique qui nous sert à dire, voilà, là, ça s'est passé comme ça, probablement, peut-être, on imagine, on pense que...
Du côté des chercheurs uniquement, c'est ça que vous voulez dire ?
Il faut un moment que la mémoire nous oblige. Or, vous voyez, quand on a fait les travaux sur la Saint-Barthélemy, on s'est dit à un moment, comment se fait-il que nous n'ayons pas de plaque ? Et on a mis cette plaque. La Saint-Barthélemy, c'est des dizaines de milliers de morts jetés dans la Seine et égorgés, enfin, dans une horreur absolue. Et on ne pouvait pas dire « nous avons fait cela ». Il a fallu 444 ans. Pour l'Arabe du Vadiv, il a fallu moins de temps. Mais peut-être que le temps s'est accéléré. Et que vous avez raison, c'est l'enchaînement des générations. Il fallait une nouvelle génération pour pouvoir affirmer les choses. Maintenant, l'Arabe du Vadiv, il faut juste mesurer dans ce que Hannah Arendt a appelé la banalité du mal. Et ce que Kafka désigne d'une formule merveilleuse. Kafka dit « Les menottes des prisonniers politiques sont faites de papier de ministère. » C'est-à-dire qu'en fait, derrière cette rafle, il y a eu mobilisation des policiers, il y a eu les ordres donnés, réquisition des bus. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire ?
Toute la logistique, toute l'organisation,
la logistique qu'il faut organiser, bien sûr. Et moi, je me dis, c'est là que s'est instillée cette humanité de celles et ceux qui n'ont pas frappé à la porte, vraiment, qui ont compris qu'il y avait du monde et qui ont fait comme s'il n'y avait personne, qui ont laissé ouvert la porte pour laisser partir, qui ont compris que l'enfant était gardé par la concierge mais qui n'ont rien dit. Ou comme un policier que j'ai connu à Reims, lorsque j'étais rabat à Reims, qui était venu la veille de la rafle prévenir une brave dame, Madame Pergament, pour lui dire « Madame, je vais venir demain vous arrêter, il faut que vous partiez. » Et la dame lui dit « Mais c'est le policier, je n'ai pas où aller. » Ce policier a pris cette femme sur son vélo, il l'a amenée chez sa propre sœur dans les Ardennes, il est revenu, et elle me racontait, elle, et monsieur le rabbin, il est venu le lendemain, il a tapé à la porte, et vous savez quoi ? J'étais pas là. Oui, il a été chez sa sœur. Donc, vous voyez, vous avez une masse, une somme d'actes héroïques qui ont permis de sauver ce qui... une quantité de personnes qu'on ne retrouve dans aucun autre pays occupé. La Hollande, c'est 90% de la communauté déportée. Salonique, je vous en parle pas, c'est 95%. La France, 75%, trois quarts des Juifs de France ont été protégés. Ce sont ces gens dans les fermes, partout. Sauver les enfants devenait un impératif, mais de l'ensemble de la société. Comme me le disait un grand corésien, on ne connaissait pas les Juifs, on ne savait pas ce que c'était les Juifs. Mais on les voyait pourchassés par les nazis, alors on les aidait.
C'est ce que dit aussi Laurent Joly, dans l'historien, oui, dans le livre qui vient de sortir sur la rafle du Vel'Biv. Il a vraiment étudié cet événement d'un point de vue d'organisation logistique, vraiment dans les archives de la préfecture de police. Et il montre comment à Paris, d'un arrondissement à l'autre, d'un commissariat à l'autre, les chiffres, les pourcentages sont extrêmement différents et on devine à travers les lignes que les attitudes des hommes qui devaient exécuter ces ordres ont fluctué de ceux qui vraiment les ont refusés ou atténués au maximum et de ceux qui, au contraire, ont même fait du zèle au-delà des objectifs.
Voilà, les zélés dans un sens ou dans l'autre, parce que cela rencontrait leurs propres objectifs personnels, leur propre haine personnelle. Mais moi, je voudrais citer, parce que cette demande du gouvernement de Vichy a été faite à tous les préfets. Et donc, à un moment, partout en France, des rafles étaient organisées. Quand Vichy demande à Pierre-Louis Bellet, qui est le préfet de Corse, comme tous les préfets, faites-nous l'état des Juifs que vous avez chez vous, il répond par écrit. Donc, il faut une certaine force morale. Il répond par écrit: il n'y a pas de Juifs en Corse, il n'y a que des Corses. Et il rajoute à la main: je ne garantis pas qu'il n'y ait pas quelques touristes. Évidemment, il sera convoqué à Vichy pour son impertinence et révoqué. De Corse, un seul Juif a été déporté parce que pendant qu'il était à Vichy, Son secrétaire général a trouvé quelqu'un et l'a envoyé au camp des Milles. Il l'a fait déporter. Il est revenu, lui, a révoqué son secrétaire général. Et 3 semaines après, il a été lui-même révoqué par Vichy. Donc, il y a eu du courage. Il y a eu une forme d'humanité profonde, véritable, qui est l'honneur de la France, qui a sauvé l'âme de la France. Et moi, j'ai assisté à beaucoup de cérémonies des justes, qui étaient donc la remise de médailles des justes pour des personnes qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Ils disaient tous, invariablement, on n'a fait que notre devoir.
Comment penser l'unité d'un pays en termes de mémoire nationale face à une situation comme celle-ci, où des Français ont eu des attitudes extrêmement différentes? Comment porter collectivement la responsabilité de quelques-uns? C'est ce qu'a assumé le président Chirac, et s'est excusé au nom de la France, mais ce n'était pas tous les Français. Et malgré tout, nous portons tous cette responsabilité.
Oui, alors c'est vrai que c'est plus facile pour des personnes comme, par exemple, le père de notre chancelier, le père de Xavier Darcos, c'est fonctionnaire du Trésor à Périgueux, et il a été fait gardien de la vie, parce qu'il a sauvé les Juifs en les aidant. Donc, je pense à lui parce que c'est notre chancelier, mais tant et tant de personnes, on a plus de 4000 personnes en France qui ont sauvé, caché les Juifs au péril de leur vie. Il ne faut jamais oublier ça, au péril de leur vie. Et puis, c'est vrai qu'il y a des personnes qui portent la responsabilité de ce qu'ont fait ou n'ont pas fait leurs parents, leurs grands-parents. Mais c'est l'histoire collective qui est importante. Oui, il y a la lumière du 14 juillet, mais oui, il y a l'ombre du 16 et 17 juillet. C'est le même tempo, le même moment, et c'est l'ombre et la lumière, parce que c'est toute notre histoire. On ne peut pas, dans une histoire, prendre dans le roman national, comme on dit maintenant, prendre que la partie qui nous plaît, la partie lumineuse. On prend Louis XI et sa capacité à faire l'État, on prend aussi ses geôles portatives petites où il a enfermé ses prisonniers. On prend les grandeurs de Napoléon et on prend le serment Maurice d'Aïcot de Napoléon. On prend tout, parce que c'est toute notre histoire et nous en sommes comptables. Voilà pourquoi, d'ailleurs, vous savez très bien qu'à France Mémoire, on ne célèbre pas, on se contente de rappeler des moments. On saute pas de joie en disant, je sais pas moi, Maurice Barrès, chouette, vive Maurice Barrès. Ou on dit simplement, il y a là quelque chose qui était un temps de notre histoire, comment on l'analyse? Avec ses bons côtés et avec ses côtés insupportables. Donc, il faut être capable de rentrer dans la complexité des moments et des personnes importantes pour notre histoire. Et je crois que si on commence à vouloir juger l'histoire passée avec nos visions du présent, rien ne tiendra. Rien ne tiendra face à notre capacité d'aujourd'hui à remettre tout en cause. Je ne veux pas être dans une obligation de tout justifier. Personne ne nous obligera à justifier l'injustifiable. Mais on doit pouvoir être capable de discerner. Donc, moi je crois que c'est ça la mémoire. D'ailleurs, puisque vous parlez de ça, sur la rafle du Veldiv, pour revenir à ce moment terrible de notre histoire, il y a un livre que je vous recommande, qui est assez étonnant, qui est un livre qui commente 16 dessins de Cabu, dessinateur. 16 dessins. Jeune journaliste dessinateur, Cabu fait 16 dessins pour le livre dont je vous parlais, le livre de Lévy et Thiard. Et ces dessins ont été regroupés, commentés, et c'est un livre bouleversant. Parce que on voit non seulement ce qui s'est passé pendant la rafle du Veldiv, mais même la façon qu'on a eu de raconter, c'est-à-dire de ne pas raconter la rafle du Veldiv. Et même, pardon, de détruire l'objet du délit.
Les preuves.
On a rasé complètement.
Les archives.
On a détruit les archives, on a rasé le Veldiv.
Le monument.
Le vélodrome a été rasé. Ce qui fait que longtemps, et n'ayant pas de lieu, qu'est-ce que vous voulez commémorer? Et puis, je rends hommage au CRIF et au MGLF qui ont mis en place des cérémonies de lecture des noms, convoi par convoi. C'est bouleversant, je le fais chaque année. Et puis, ces associations ont organisé une cérémonie sur le lieu du Veldiv, puis l'État a mis une sculpture de Walter Spitzer à l'endroit du Veldiv. Puis, le bâtiment qui a été construit sur l'endroit du Veldiv qui appartient au mutuel, je sais plus lequel, ont donné un jardin, un espace qui a été utilisé pour en faire un jardin à la mémoire des 4000 enfants. J'étais récemment à Bonnard-Hollande et Pithiviers. Quand vous voyez la liste de tous ces noms sur une immense plaque de granit, c'est un coup de poing que vous prenez. Et moi, je pense que il y a un devoir aujourd'hui d'avoir conscience que la mémoire nous oblige. Et qu'une société qui ne sait pas conserver sa mémoire, toute sa mémoire, la lumineuse comme la sourde, la difficile, la lourde, la ténébreuse, l'obscurcie, celle qui nous empêche de nous regarder dignement dans le miroir de l'histoire, mais qui nous rend fort parce qu'on se dit, puisque nous avons fauté, alors nous avons un devoir de compréhension et un devoir de nous élever, de faire mieux. Et je crois que c'est cela, la façon de concevoir la mémoire et la transmission de la mémoire. Soit vous vous dites, ce qu'il y a eu avant ne me concerne pas, moi je ne suis pas attaché à cela, donc je fais ce que je veux. Soit vous considérez que le passé vous oblige et vous essayez de faire mieux.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une vision un peu différente des institutions et notamment de l'État qui fait que pendant longtemps, on a considéré qu'on pouvait sacrifier les individus pour la raison d'État, pour conserver une certaine idée de la France, pourrait-on dire, et qu'aujourd'hui, la place des victimes, de plus en plus importante, vient rééquilibrer les choses?
En tout cas, la place de l'individu, vous avez raison. C'est dans le choix entre protéger une personne et protéger l'État. Manifestement, le choix qui a été fait, c'était de protéger l'État. C'est-à-dire, il n'y a rien eu, c'est pas nous. D'ailleurs, c'est pas nous.
C'était un peu le drame de Dreyfus, d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire qu'on sacrifie une personne pour sauver l'honneur de l'armée, une fois que tout le monde a compris très rapidement, très rapidement, très très rapidement, que c'était faux. Reconnaître que c'était faux, c'était risquer les honneurs pour 2, 3, 4 personnes. Et finalement, c'était le déshonneur à la fin. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Après 12 ans, quand le 13 juillet 1906, le capitaine Dreyfus, qui passe commandant en ce moment-là, Dreyfus, est réhabilité, qu'est-ce qui se passe ? L'armée est couverte de honte. La France, aux yeux du monde, est une nation qui était prête à sacrifier l'honneur d'un petit capitaine. Mais Lévinas dit, à ce moment-là, on s'est dit, un pays qui se coupe en deux pour l'honneur d'un petit capitaine juif, c'est un pays où il faut aller vivre. Et Lévinas raconte ça. Donc, moi, je pense que oublier cette mémoire, oublier le mal possible, c'est d'une certaine façon être livré à la volonté de faire pire pour montrer que c'était pas grave. Si vous voulez, c'est une règle simple. Si vous faites quelque chose et vous en avez honte, alors vous dites « je veux surtout plus jamais revivre ça », mais si vous dites « c'était pas ma faute », et d'ailleurs je peux vous dire bah, « c'était rien d'ailleurs, c'est pas ma faute », et d'ailleurs on peut prouver puisqu'il suffit de faire plus, on fera pire. C'est une règle. Et moi je crois qu'on se fonde à être un grand pays lorsqu'on est capable d'interroger notre histoire. Et d'ailleurs, permettez de rappeler que, vaguement que je suis rabbin, ou en tout cas que j'arrive à me repérer dans la Bible, et qu'il y a un verset magnifique. La fin du Deutéronome doit être le verset 7 ou 9, en tout cas c'est le chapitre 32, qui dit la chose suivante. « Interroge ton père, il te racontera, tes anciens, ils te diront. » Si on n'est pas capable d'interroger la génération avant nous, et peut-être les générations avant nous, alors on sera étranger à notre propre histoire. Et remarquez que la rafle du Valdiv, que la déportation, celles et ceux qui ont eu le miracle de revenir, n'en ont pas du tout parlé. Parce que, soyons honnêtes, c'est vrai qu'il y avait rien, je vous ai parlé du premier livre sur la question, « La Saint-Barthélemy des Juifs de Paris », comme sous-titre. Mais honnêtement, les rescapés n'en parlaient pas. Pourquoi ? Je leur ai posé la question, bien plus tard. On voulait protéger nos enfants, on voulait protéger la société. De toute manière, on ne nous aurait pas cru. C'est tellement incroyable qu'on ne nous aurait pas cru. On a préféré se taire. Et c'est ce que dit le verset que je vous ai cité. Interroge ton père, il te racontera. Mais si ton père ne te parle pas, quand ton père deviendra un grand-père ou une grand-mère, alors tes anciens, ils te diront. Il a fallu, comme vous le disiez si justement au début de l'interview, il a fallu qu'il y ait un changement de génération pour que les mémoires puissent enfin devenir des mémoires qui sachent raconter. Parce que la mémoire, elle est aussi frappée par ce que j'appelle, moi, qui viens de l'armée, le stress post-traumatique. C'est-à-dire, vous êtes heurté par un événement tellement incroyable, impensable, que vous ne pouvez pas le raconter. Et moi, j'ai vu, et nos psychiatres, psychologues, ont beaucoup aidé d'autres populations frappées par ce type de violence, notamment des victimes des génocides du Rwanda. Mais c'était la même chose en 1915, lorsque les Arméniens sont massacrés par un État, une fois de plus, par les Turcs. Je crois là qu'il y a un phénomène générationnel. Il a fallu attendre 1995 pour que la France, par la voix du président de la République, puisse enfin dire les choses. Et vous remarquerez que le président Jacques Chirac a commencé son premier mandat par ce discours, à quelques jours près, et il a conclu son second mandat le 18 janvier 2007 par la cérémonie d'hommage aux Justes de France au Panthéon avec Simone Veil. Façon de dire, oui, j'ai été capable de dénoncer l'obscurité, mais je veux aussi prendre comme étendard la lumière des Justes. Et c'est peut-être ça notre objectif, d'être capable de les prendre ensemble, parce que c'est notre histoire, et que cette histoire, aussi glorieuse que parfois honteuse, nous serve de guide dans le futur. C'est l'objectif de France Mémoire.
Et qu'est-ce qu'il faut transmettre ? Ce sera votre conclusion, la nouvelle génération, avec ces années qui passent, ces événements qui peuvent sembler bien lointains, bien étrangers finalement, et peut-être laisser indifférents.
Voilà, c'est l'enjeu, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'indifférence. Elie Wiesel disait, l'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est très vrai d'ailleurs dans la vie de couple, c'est vrai dans la société. L'inverse de la haine, c'est l'indifférence. C'est ces gens qui voyaient rafler des personnes et qui ne réagissaient pas. Mieux qui allaient servir dans le mobilier, qui s'installaient dans les maisons. Revoyez par exemple Monsieur Batignol. C'est un film bouleversant, avec Junio. Et pourtant, à la fin, il sauve le petit Simon. Touché par cet enfant, c'est-à-dire par son humanité. Donc, je crois qu'il faut faire prendre conscience que ça s'est passé ici, chez nous. Oui, c'est un peu facile de considérer que Auschwitz, c'est loin, c'est en Pologne. Treblinka, Majdanek, c'est en Pologne. C'est pas chez nous. Il y a eu un camp, Ouchtroutov, à côté de Strasbourg. Nous avons Drancy, à côté d'ici. Nous avons Compiègne. Nous avons le camp d'Émile. Nous avons Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Noé, Récébédou, Gurs. Je pourrais vous égrener cette longue litanie des lieux que notre éminent confrère membre de l'Académie française, Pierre Nora, a porté dans sa trilogie sur les lieux de mémoire en France. Et prendre conscience que, oui, des personnes ont été déportées ici. J'ai été bouleversé quelques semaines quand je suis allé à une cérémonie organisée par la mairie de l'arrondissement où j'habite, dans Paris. Et je me suis rendu compte que dans l'immeuble où j'habite, oui, une jeune fille a été déportée. Parce qu'il y avait la liste. Donc j'ai regardé la rue où j'habitais, il y avait des numéros. J'ai regardé mon numéro, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne. C'est-à-dire que là où j'habite, là où je rentre, là où je vis, là où j'essaie d'être heureux avec ma famille, il y a une personne qui a été ôtée de la société, ôtée de la vie. Je ne dis pas que je dois vivre avec ça en permanence. Je dis le simple fait de le savoir m'oblige à ne pas vivre cela sans ignorer son nom, sans ignorer son histoire, une part de son histoire. Et je me dis que c'est comme ça qu'on se construit. Si on prend chacun une part de notre histoire, quand vous allez sur au mémorial de la déportation et que vous voyez ce mur avec les noms, vous regardez les noms, puis vous vous attachez à un nom. prenez le livre de Clarsfeld et regardez ce nom. Regardez le visage, s'il l'a retrouvé, regardez l'adresse. Et je trouve que c'est cela, la force de la mémoire. C'est qu'on la rend contemporaine.
Eh bien, un grand merci, Raïm Corsia, de nous avoir aidés à commémorer les 80 ans de la rafle du Veldiv. Et j'en profite pour signaler à nos auditeurs le livre de Laurent Joly aux éditions Grasset, La rafle du Veldiv, un travail d'historien remarquable, directeur de recherche au CNRS, sur toute la partie policière et administrative de cette opération.
Et si vous permettez,
bien sûr,
la jeune fille qui a été raflée dans l'immeuble que j'habite s'appelait Jacqueline Pfeffer, elle avait 16 ans.
Eh bien, nous lui dédions cette émission à Jacqueline Pfeffer. Merci.
Voilà.